VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 30 novembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Au sommet Union européenne-Union africaine à Abidjan, série de mesures pour mettre un terme à l'esclavage des migrants africains en Libye.
Appel de l'ONU aux autorités de Kinshasa pour un respect des libertés des citoyens. L'opposition maintient son mot d'ordre de marche pour aujourd'hui.
Au moins 6 morts cette semaine dans des affrontements entre orpailleurs à la frontière entre le Mali et la Guinée.
Les gardes-côtes espagnols ont annoncé hier avoir repêché 3 cadavres dans le détroit de Gibraltar.
Le dernier tir nord-coréen de missile balistique intercontinental rapproche le monde de la guerre plutôt que de l'en éloigner, avertit Nikki Haley, représentante permanente des États-Unis à l'ONU.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le 5e sommet Union européenne-Union africaine a débouché hier soir sur une série de mesures d'urgence pour mettre un terme à l'esclavage de migrants en Libye, devenu un des thèmes au centre des débats. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Évacuation d'urgence des Africains désirant quitter la Libye, task force policière et de renseignement, commission d'enquête mais aussi une communication pour dissuader les jeunes de tenter l'exode. C'est ce qui est prévu, a annoncé le président français Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion d'urgence de 9 pays sur le sujet. Une commission d'enquête de l'Union africaine va être mise en place. Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a révélé que la croissance économique impressionnante en Afrique durant la dernière décennie, autrement dit que les inégalités de revenus reste trop importante, ce qui pousse les jeunes à continuer d'émigrer. Mardi, le président du Parlement européen, Antonio Tajani, avait déclaré vouloir proposer un plan Marshall pour le développement de l'Afrique, notamment pour investir massivement dans ses infrastructures. La question de la sécurité a été aussi abordée au moment où l'Afrique de l'Ouest, en particulier, connaît une montée en puissance de groupes djihadistes, en partie liée à la désespérance de la jeunesse africaine. L'Union européenne affiche son soutien au G5 Sahel, Mali, Niger, Mauritanie, Burkina Faso, Tchad, qui s'efforce de mettre en place une force anti-djihadiste dans cette région, mais le financement de cette force est encore largement insuffisant. Seule la moitié de son budget a été réunie, bien qu'il ait été divisé par 2 à 240 millions d'euros. Le G5 Sahel a besoin d'une force africaine capable d'imposer la paix, dotée d'un mandat à la hauteur des menaces et d'un financement pérenne, a plaidé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
Les Nations Unies ont demandé hier aux autorités de Kinshasa de respecter les libertés des citoyens. L'opposition veut organiser aujourd'hui une marche contre le calendrier électoral, mais cette manifestation est interdite par les autorités. Précision de John Linden.
La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, appelle les autorités congolaises à respecter la liberté de réunion et de manifestation qui figure dans la Constitution. Le gouverneur de Kinshasa a interdit la marche du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Cette coalition ne souhaite plus voir le président Joseph Kabila au pouvoir après le 31 décembre. Devant la presse, le président du RASOP, Félix Tshisekedi, a confirmé le maintien de la marche dans un appel solennel. Il invite tous les Congolais à envahir ce jeudi les rues de toutes les villes pour exprimer leur ras-le-bol à l'égard du régime de Kabila. Dans la soirée hier, une ultime tentative de conciliation avec le gouverneur de Kinshasa, André Kibunta, n'a pas abouti. Les manifestations sont régulièrement interdites et sévèrement réprimées depuis quelques mois dans le pays.
Au moins 6 personnes, dont 4 gendarmes maliens, ont été tuées et d'autres blessées dans des affrontements lundi entre orpailleurs à la frontière entre le Mali et la Guinée. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les 4 gendarmes sont morts lors d'une opération de sécurisation des populations sur le site d'exploitation minière d'une localité malienne à la frontière guinéenne, selon les forces armées du Mali. Elles ont affirmé que les gendarmes ont été victimes de tirs de ressortissants guinéens suite à un conflit sur l'exploitation d'un site aurifère entre le village malien de Liaoleni et un village guinéen. De leur côté, les forces de sécurité guinéennes estiment que ce sont plutôt les orpailleurs maliens, épaulés par des chasseurs et des gendarmes, qui ont attaqué des Guinéens sur une mine d'or du village de Faranoko, en Guinée. Bamako et Conakry ont envoyé des renforts sur place. Les affrontements entre orpailleurs sont récurrents dans cette région frontalière. La Guinée est riche en minerais de fer, de diamants, d'or et de bauxite et détient 2/3 des réserves mondiales.
Certains groupes armés au Soudan ont toujours recours aux enfants soldats, ont déploré mercredi les Nations Unies. Toutefois, elles reconnaissent les efforts de Khartoum pour empêcher le recrutement de mineurs. Dans les zones de conflit, les enfants sont victimes de violations de toutes sortes, meurtres, mutilations, agressions sexuelles, enlèvements, et les écoles et hôpitaux sont souvent la cible d'attaques, a indiqué Olof Skog, chef du groupe de travail de l'ONU sur le travail des enfants et les conflits armés.
Les gardes-côtes espagnols ont annoncé hier avoir repêché 3 cadavres dans le détroit de Gibraltar, non loin de l'endroit où 2 migrants avaient été sauvés plus tôt. Les victimes étaient sans doute à bord du même canot pneumatique que les 2 survivants qui tentaient une traversée depuis le Maroc alors que la mer était mauvaise, a expliqué une porte-parole des gardes-côtes. Il y avait, selon un des survivants, 6 hommes à bord de ce canot.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a averti hier que le dernier tir nord-coréen de missiles balistiques intercontinentaux rapproche le monde, je cite, de la guerre, plutôt que de l'en éloigner. Nous n'avons jamais voulu, ni nous voulons aujourd'hui, la guerre avec la Corée du Nord, a déclaré Mme Haley lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Mais a-t-elle souligné, s'il y a guerre, ce sera à cause d'actes d'agression continue, tels que le tir de missiles. Et Nikki Haley d'avertir que si la guerre vient, ne vous y trompez pas, le régime nord-coréen sera traduit complètement. Il a également demandé à tous les pays membres de couper leurs liens avec Pyongyang. Selon Mme Haley, le président américain Donald Trump a dit à son homologue chinois Xi Jinping dans un entretien téléphonique qu'il est temps pour Pékin de couper toutes les exportations de pétrole vers la Corée du Nord.
Et la presse a retenu effectivement qu'elle a dit que le régime nord-coréen sera détruit complètement en cas de guerre. D'autre part, le président Trump a retweeté 3 vidéos anti-musulmanes incendiaires qu'avait postées Jada Franson, vice-présidente d'un groupe d'extrême droite britannique Britain First. Cette décision lui a valu des condamnations généralisées. L'une des vidéos a identifié incorrectement un assaillant comme étant musulman. Le président Trump en réaction à une critique de la première dame de la première ministre britannique Theresa May, lui a répondu sèchement « Ne te focalise pas sur moi, focalise-toi sur le terrorisme islamique radical destructeur à l'intérieur du Royaume-Uni. Tout va bien pour nous. »
Le nombre de personnes entrant aux États-Unis qui ne sont pas citoyens américains ou titulaires d'un permis de séjour a baissé de 4% au premier semestre, selon des chiffres publiés mercredi. Le point avec Solange Niamoulissa.
Les statistiques ont été publiées hier par les organismes dépendants du ministère du Commerce qui compilent les entrées sur le territoire américain sous les régimes appelés I-94, exemption de visa. Les chiffres font apparaître que 33 864 millions de personnes ont passé les frontières aériennes, terrestres et portuaires des États-Unis, soit une baisse de 3,9% sur la même période l'année dernière. Le président Donald Trump veut construire un mur entre le Mexique et les États-Unis pour empêcher l'immigration illégale et les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier dernier. Aussi, l'administration Trump a interdit de manière permanente en septembre l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de 8 pays pour la plupart du Moyen-Orient, du Tchad et de la Corée du Nord. Cette décision fait toutefois l'objet de recours en justice.
Et le Royaume-Uni, le nombre de personnes...
Le Royaume-Uni est très proche d'un accord avec Bruxelles sur le règlement financier du Brexit, a assuré mercredi un commissaire européen. Mais les chiffres avancés par les médias, qui s'élèvent jusqu'à 55 milliards d'euros, ont provoqué des remous chez les élus britanniques, Anastasie Tudiech.
La commission qui négocie au nom des 27 n'a jamais donné de chiffres officiels. Mais selon le Daily Telegraph et le Financial Times, la facture du Brexit serait de 45 à 55 milliards d'euros pour le Royaume-Uni. Le gouvernement britannique qualifie ces chiffres de spéculation. Nigel Farage, député européen et ex-chef du parti europhobe UKIP, a jugé inacceptable un tel accord. Le leader du Parti libéral-démocrate, farouchement opposé au Brexit, a souligné la double perte subie par le Royaume-Uni, qui doit payer un lourd tribut pour quitter une institution dont il a bénéficié depuis des décennies. Le député travailliste pro-européen Chuka Umunna a quant à lui estimé que les chiffres annoncés constituaient le symbole évident de l'impossibilité à faire le divorce dans les conditions qui ont été présentées au peuple britannique. Les 27 sont censés annoncer lors d'un sommet à la mi-décembre s'ils acceptent d'ouvrir la deuxième phase des négociations.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
L'Union européenne envisage d'ici 2020 à injecter 44 milliards d'euros pour le développement de l'Afrique dans le cadre des investissements directs étrangers. En marge du sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, un communiqué conjoint précise que ce financement sera consacré au développement des infrastructures et au soutien des petites entreprises en vue d'accéder au crédit et d'accroître la capacité à créer des emplois. L'aide au développement sera de 31 milliards d'euros pour la même période. Les échanges commerciaux entre l'Italie et l'Afrique s'évaluent à 34 milliards d'euros. L'année dernière, Rome est devenue le troisième investisseur mondial et le premier européen en Afrique subsaharienne. En visite en Angola, le premier ministre italien Paolo Gentiloni a déclaré que l'Union européenne devrait mettre l'accent sur les investissements publics et privés étrangers pour l'avenir de l'Afrique. Il a toutefois précisé que les aides au développement sont nécessaires au redressement du continent africain. L'avenir de l'Union européenne dépend fortement de l'Afrique, a-t-il indiqué. Le Nigeria connaît un déficit budgétaire de 306 milliards de naira entre 2018 et 2020. Abuja compte le financer avec le produit de la privatisation de certains actifs non pétroliers. Au total, le gouvernement doit emprunter près de 1670 milliards de naira. Environ 50% reviendront de l'extérieur et le reste de l'intérieur du pays.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
En Angleterre, Manchester City toujours solide leader.
Au bout du temps additionnel, Raheem Sterling a offert à Manchester City sa 12e victoire d'affilée en championnat contre Southampton, 2-1. En tête de la Premier League, City conserve 8 points d'avance sur son rival, Manchester United. Et grâce à sa courte victoire contre Swansea, 1-0, Chelsea reste 3e de cette Premier League devant Arsenal. Les Gunners, vainqueurs 5-0, Huddersfield, les Gunners et leur Frenchie ont régalé le public. La Lacazette a ouvert le score, Olivier Giroud a inscrit un doublé.
En France, le PSG est aussi largement en tête de la Ligue 1.
Grâce à des buts de Neymar et Cavani, le Paris Saint-Germain est sorti vainqueur d'un match compliqué contre 3, victoire 2-0. Paris creuse son avance en tête du championnat de France, 10 points d'avance sur Marseille qui, grâce à sa victoire 3-0 à Metz, chippe la deuxième place à Monaco, battu 1-0 à Nantes.
Mazembe souffre en championnat congolais.
Oui, rentré mardi à Lubumbashi après leur sacre en Coupe de la Confédération et après une courte nuit à célébrer avec les supporters, les Corbeaux ont réussi à battre dans les ultimes minutes à domicile 2-1. Don Bosco, c'était hier en championnat.
La MLS a grandi aux États-Unis.
La Ligue nord-américaine de football a retenu hier les candidatures de Cincinnati, Détroit, Nashville et Sacramento pour l'attribution des deux prochaines franchises qui évolueront dans son championnat. On rappelle Idrissa que le prix d'acquisition d'une franchise de la MLS a été fixé à 150 millions de dollars. Le championnat MLS oppose depuis cette saison 22 équipes. Une deuxième équipe de Los Angeles verra le jour en 2018, tandis qu'aucune date n'a été encore fixée pour Miami. Le projet de David Beckham, à terme, la MLS veut avoir dans son championnat 28 équipes. Autre ligue nord-américaine, la NBA, le championnat de basket nord-américain. Avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Phoenix Suns et Detroit Pistons, 107-131. Oklahoma City Thunder et Orlando Magic 108-121, Washington Wizards et Philadelphia Sixers 113-118, Miami Heat et New York Knicks 86-115, Charlotte Hornets et Toronto Raptors 113-126, Indiana Pacers et Houston Rockets 97-118.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, les chefs d'État et de gouvernement africains et européens se sont retrouvés hier à Abidjan pour le 5e sommet Union européenne-Union africaine qui se penche principalement sur les questions d'immigration et de sécurité. D'Abidjan, notre correspondante Narita Namasté fait le point.
L'immigration clandestine et le trafic de migrants vendus comme esclaves en Libye au cœur du 5e sommet de l'Union européenne-Union africaine qui s'est ouvert mercredi à Abidjan. De nombreux chefs d'État présents à ce sommet ont appelé à intervenir au plus urgent pour mettre fin à cette situation de crise humaine qui a déjà, depuis 2016, fait plus de 5000 morts en Méditerranée. Le président Alassane Ouattara, hôte du sommet, a été le premier à prendre la parole.
Chers jeunes, vous incarnez l'avenir de notre continent par votre dynamisme, votre ingéniosité et votre extraordinaire potentiel. Vous êtes un atout inestimable pour l'Afrique. Nous devons tout mettre en œuvre pour votre épanouissement sur notre continent qui a tant besoin de vous. Je vous invite à avoir foi en l'avenir, à ne pas vous lancer à l'aventure au péril de vos vies. Les leaders que nous sommes ont l'obligation de poursuivre et d'intensifier nos efforts pour vous offrir davantage d'opportunités et d'emplois, pour améliorer vos conditions de vie dans un environnement sécurisé.
Le président de l'Union africaine, Alpha Condé, face au fléau de l'immigration, a appelé ses pays africains à se donner la main pour apporter des solutions humaines à la question de l'immigration. Il a qualifié la vente d'esclaves en Libye de fait intolérable et inacceptable. Alpha Condé a en août appelé la communauté internationale à agir dans l'urgence face à la question de l'immigration en Libye et leur cordon de passeurs.
Donnons-nous la main pour apporter des solutions plus humaines à cette crise migratoire qui vicie les relations entre le Nord et le Sud. Nous condamnons énergiquement les actes abominables commis dans certains pays de la route migratoire de l'Afrique vers l'Europe, notamment en Libye. Ces faits sont intolérables et inacceptables. La communauté internationale doit prendre des mesures fermes pour mettre fin à ces crimes de notre âge.
La pauvreté, le chômage des jeunes sont l'une des causes citées par des experts qui poussent les jeunes africains vers l'Eldorado, entraînant mort et esclavage. Selon un bilan de la Banque mondiale, les jeunes représentent 60% de l'ensemble des chômeurs africains. Une réunion d'urgence sur la question entre la France, le Niger, le Tchad, le Maroc, la Centrafrique, l'Union africaine, l'Union européenne sur la lutte contre les trafiquants de migrants vendus comme esclaves en Libye s'est tenue jusqu'à tard dans la nuit sur les bords de la lagune Ébrier. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Investir dans la jeunesse pour un avenir durable, tel est donc le thème de ce sommet d'Abidjan entre dirigeants africains et européens. Claire Morin-Gibourg a joint le fondateur du think tank africain Wati, Gilles Yabi, pour lui demander comment et avec quelle priorité ces investissements dans la jeunesse doivent-ils être menés.
Je crois que l'enjeu de la jeunesse, c'est le plus important, parce que derrière, c'est l'enjeu de la formation, c'est l'enjeu de l'éducation, c'est l'enjeu, bien sûr, de former des jeunes qui soient capables de trouver des emplois et qui puissent contribuer à la transformation économique du continent africain. C'est un enjeu qui est central, mais une fois qu'on a dit cela, je crois qu'il faut dire tout de suite qu'il n'y a pas de solution miracle à rechercher. Les vrais problèmes sont structurels et la situation aujourd'hui qui est déjà préoccupante, c'est le résultat d'une certaine manière, de l'absence de progrès économique et social important au cours des 3, 4, 5 dernières décennies. Et donc, l'enjeu, c'est celui de la transformation structurelle au niveau économique, mais d'abord au niveau politique.
La directrice Afrique de l'ONG One dit qu'il faudrait créer 22 millions de nouveaux emplois tous les ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces estimations et est-ce que c'est possible?
Je ne peux pas me prononcer sur l'estimation. Il y a plusieurs chiffres qui circulent sur le nombre de millions de jeunes Africains qui auront besoin d'emplois tous les ans, en se basant sur la jeunesse des pays du continent et sur la démographie, ce qui veut dire aussi que le nombre de jeunes est non seulement important aujourd'hui, mais qu'il va continuer à s'accroître du point de vue des tendances démographiques. Maintenant, je crois que le plus important, ce n'est pas de savoir si c'est 15, 22 ou 20 millions, ce qui est important, et d'observer que la situation en termes d'emploi est déjà préoccupante, même si elle ne se traduit pas dans des taux de chômage nécessairement élevés, mais bon, en réalité, elle se traduit dans des sous-emplois ou dans des emplois qui sont très précaires. Mais l'enjeu, de toute façon, il est très important et la difficulté va être de plus en plus importante au vu à nouveau de la démographie, au vu du décalage entre la croissance du nombre de jeunes qui arrivent à un âge où ils ont besoin d'emploi et les possibilités qui sont offertes par des économies qui ne se sont pas transformées d'un point de vue structurel. Donc l'enjeu, c'est d'abord à nouveau celui de la transformation économique, c'est aussi celui de politique publique et qui soit réellement orienté fondamentalement vers l'emploi des jeunes, mais au-delà de l'emploi, vers l'épanouissement des jeunes africains. Et ça passe aussi par des réformes profondes dans le domaine éducatif. Ça passe également par une réconciliation des jeunes avec leur environnement naturel, avec la création d'emplois qui soient adaptés aux besoins des sociétés africaines et de leur environnement.
Gilles Yabi, fondateur et président du think tank africain Wati, il était joint à Dakar.
Ekia Badou avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, analyse le dossier des migrants africains. 164 000 sont arrivés par la mer en Europe selon les derniers chiffres publiés par l'OIM, mais 3 000 autres ont perdu la vie en mer. D'autres sont réduits en esclavage en Libye. La question migratoire est l'un des deux grands thèmes du sommet Afrique-Europe à Abidjan les 29 et 30 novembre. Pensez-vous que les 80 chefs d'État sur place vont trouver des solutions à ce problème? Comment éradiquer ce fléau? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous dans Washington Forum ce jeudi à 19h en temps universel.
Le Burkina Faso a inauguré hier la plus grande centrale d'énergie solaire de l'Afrique de l'Ouest. Bien avant le Burkina, le Sénégal s'était doté de sa propre centrale et le Maroc est très avancé dans ce domaine solaire. Les Africains se tournent donc de plus en plus vers les énergies renouvelables. Yacouba Ouédraogo a joint le Malien Makan Tandina, ingénieur en énergie solaire.
L'Afrique est un peu en retard par rapport au développement des énergies renouvelables et je pense que c'est un élan que l'Afrique est en train de prendre et particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Quand on voit qu'aujourd'hui le Burkina, ils ont inauguré avec le président français Macron la plus grande centrale solaire en Afrique de l'Ouest, ce qui est mémorable et historique. De notre côté, pour le cas du Mali, c'est pour bientôt et on a même pris du retard. C'est pas des cas isolés, du moins où les autorités veulent suivre cette démarche-là pour l'indépendance de l'énergie.
Jusque-là, on a l'impression que ça tarde. Hein. Qu'est-ce qui achoppe véritablement dans cet élan vers les énergies renouvelables, notamment le soleil?
Le retard est dû à nos autorités et dû à nos gouvernants. Parce que, comme on le dit aujourd'hui, le coût des énergies renouvelables est particulièrement cher pour la classe moyenne qui constitue pratiquement nos pays. Donc, le développement des énergies renouvelables dans le cadre de l'Europe où j'ai eu la chance d'étudier et de connaître un peu le domaine, c'est-à-dire dans ces pays-là, c'est le gouvernement qui se sont mis en œuvre pour permettre le développement et subventionner l'énergie renouvelable. Malheureusement, chez nous, on a ce problème-là. Les gouvernants ne suivent pas, alors que le soleil qu'on a peut nous brûler.
C'est une question de volonté politique ou de moyens financiers?
C'est une question de volonté politique parce que si on regarde ce qu'on investit dans les énergies thermiques, le gasoil seulement au Mali, si ma mémoire est bonne, ça permet de faire des mini-centrales au fur et à mesure que le temps passe pour au moins être indépendant aujourd'hui d'une manière ou d'une autre.
Alors on dit aussi que ceux qui détiennent bien sûr l'industrie de l'énergie thermique freinent d'une manière ou d'une autre à travers des lobbies et l'avancée de l'énergie solaire, c'est votre pensée?
Effectivement, je suis dans cette logique parce que si je prends le cas du Mali où on a un pays ensoleillé 11 mois sur 12, comment est-ce qu'on peut expliquer que l'énergie solaire, ça ne marche pas au Mali? Donc après, il y a des lobbies, il y a un système qui est mis en place depuis l'indépendance où notre énergie est disponible. Il y a des lobbies qui sont là, qui font marcher le carburant. Aujourd'hui, ils savent que si on développe les énergies renouvelables, ça va arrêter eux leur business, alors que c'est l'avenir et c'est sur ça qu'il faut aller.
Vous le disiez tantôt, l'énergie solaire reste l'avenir pour l'Afrique. Hein?
Bien sûr, comme je le dis souvent, l'Afrique a eu des ressources minières où les Africains n'en ont pas eu à les gérer. La seule chose que personne ne peut nous prendre, c'est le soleil. Donc je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons nous développer, et sachant que l'énergie est l'un des premiers facteurs de développement en matière de l'industrialisation, en matière d'école, en matière de santé, si nous voulons nous développer, il faut forcément passer par les énergies renouvelables et investir.
C'était Makan Tandama, ingénieur en énergie solaire, joint à Bamako.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En République démocratique du Congo, le vote citoyen appelé par la société civile se poursuivra le week-end prochain en RDC et à l'étranger. Les organisateurs souhaitent avoir une plus grande affluence après la tentative de la semaine dernière. Eddy Sango a joint l'un des initiateurs du vote, le professeur Jean Bellé.
Au moins 830 000 Congolais ont voté en ligne, c'est-à-dire que par téléphone, par WhatsApp, par Internet, ils ont utilisé beaucoup d'autres moyens. Et sur place au Congo, nous avons collecté près de 92 000 personnes qui ont voté, notamment à l'est du pays, des personnes qui ont voté aussi à Kinshasa, et puis aussi dans la diaspora congolaise. Alors si nous avons décidé de donner encore une chance aux Congolais, c'est parce que beaucoup de gens n'étaient pas au courant qu'il y avait ce vote. Et aussi, beaucoup de gens n'y croyaient pas que ça allait se faire. Et on a dénombré, par exemple, dans tout près de 130 000 personnes se sont déplacées pour aller voter. Mais malheureusement, les agents électoraux que nous avons mis en place ne se sont pas présentés pour plusieurs raisons. D'autres raisons, c'est que les agents de sécurité se sont présentés comme agents électoraux et ils ont saboté.
Il existe une commission électorale nationale indépendante au Congo. Vous parlez de vote citoyen. C'est en fait quoi les votes citoyens?
Bon, les votes citoyens, c'est parce que la commission électorale dont vous venez de parler a échoué complètement dans sa mission. Ils n'ont pas pu organiser les élections telle que prévue dans la Constitution. Donc, ils ont violé la Constitution, ils ne sont plus légaux. Ils n'existent plus du point de vue constitutionnel. Le pouvoir revient au peuple. C'est le peuple qui lui avait donné ce pouvoir constitutionnel en votant la Constitution. Le pouvoir du peuple aussi, c'est le pouvoir du président de la République, des sénateurs, des parlementaires qui revient aussi au peuple congolais. Et ils étaient seulement des locataires. Maintenant, comme leur contrat de location est fini, c'est le propriétaire du pays qui est le peuple qui reprend tout. C'est pourquoi le peuple va organiser maintenant les élections pour choisir les nouveaux mandataires qui vont l'aider à aller aux élections apaisées et démocratique dans les meilleures conditions.
La CENI a déjà fixé la date du 23 décembre 2018 pour la présidentielle.
Nous ne faisons pas confiance à ce que la CENI vient de fixer. En 2015, M. Nanga parlait de 16 mois pour organiser les élections. Puis à chaque étape, il parle d'une nouvelle date. Et regardez, il avait parlé de 2019. Deux semaines après, il parle de 2018. D'un coup, il a levé 360 jours. Ça, ce n'est pas crédible. Et puis aujourd'hui, il a parlé de vote électronique. Il a dit que nous avons la machine à voter, mais ce n'est pas le vote électronique. Ils sont en train de tromper la population, de raconter des histoires, et ce n'est pas correct.
Déjà, les gens ne se sont pas présentés les week-ends derniers. Est-ce que ce n'est pas un discrédit? Pensez-vous que les Congolais vous suivent?
Ah oui, bien sûr. Et je vous dis, nous avons reçu les Congolais qui sont en Inde, qui sont en Chine, qui sont au Brésil, et qui sont au Pakistan, et qui sont en Australie, en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, partout en Afrique. Ils réclament où est-ce que nous allons voter. Donc les Congolais sont en train de nous suivre. Partout au Congo, les Congolais nous appellent.
C'était de Kinshasa, ou plutôt du Congo, Jean Bellé, un des initiateurs du vote citoyen de la société civile.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.